Bonjour à tous. Je me fais souvent, ça n'a rien à voir avec la prédication, mais je me fais souvent la réflexion que chacun devrait avoir l'opportunité de passer ici au moins une fois dans l'année pour voir l'Assemblée de face, parce que c'est très agréable de vous voir tous. D'habitude, je me mets au fond, donc je vous vois de dos, puis d'un coup, hop, je vois tous les visages, souriants. Si, si, souriez, faites voir. Non, bon. Allez, j'arrête. Dernièrement, j'ai observé quelques conflits chez nous, quelques conflits à la maison, qui se sont largement apaisés parce que nos enfants sont partis en camp maintenant, mais quelques conflits qui tournent autour d'une question intéressante, je trouve, qui tourne autour de la notion de justice. Vous avez, si vous avez des enfants, je pense que vous avez déjà vu ça, hein, c'est pas juste, ou alors pour être juste, il faudrait faire comme ceci ou comme cela. Et ça se joue souvent sur des broutilles, évidemment, hein, c'est à l'échelle de la maison. Donc c'est qui va manger la dernière mousse au chocolat, par exemple. Et là peut s'engager un débat sur le fait que ben, un tel en a déjà mangé une hier, et puis l'autre répond « oui, mais moi c'est parce que j'aime pas les autres desserts, et puis toi t'en as déjà eu deux la semaine dernière, enfin tout ça, vous voyez ». Et parfois, ça prend aussi des tournures plus positives. Par exemple, lorsque quelqu'un se retient, au contraire, de manger cette mousse parce que ça serait juste qu'elle revienne à papa qui n'était pas là la dernière fois. Et moi, je suis d'accord, bien sûr, là-dessus. Donc, vous voyez un peu le style. Et c'est intéressant, je trouve, cet attrait pour la justice. C'est une valeur qui est importante, qui part d'un bon sentiment. Mais il y a un gros travers à cet attrait-là. Imaginez un monde implacablement juste, un monde qui rétribue chacun selon ses mérites et qui châtie chacun selon ses fautes. On peut se dire, bah, c'est super. Voyons voir. Imaginez un monde juste où tu payes le prix pour chacune de tes erreurs, où le policier ne laisse jamais rien passer. Ni l'insouciance de la jeunesse qui fait que tu as oublié tes papiers, ni les circonstances particulières qui t'ont fait griller doucement un stop pour arriver un petit peu plus vite au chevet d'une personne mourante. Rien. La loi appliquée sans état d'âme. Une justice pure, mais dépourvue d'humanité. Une justice qui nous fait entrer en réalité dans un monde invivable, à l'air irrespirable, un monde où nous vivons constamment dans la crainte de l'injustice d'un côté ou dans la crainte du châtiment de l'autre. Et donc une société policière, puisqu'il faut de la justice partout, donc des caméras, de la reconnaissance faciale, du contrôle social. Et j'aimerais vous dire que je dresse là une dystopie, mais en fait ça existe déjà dans la réalité. Dans un article d'avril 2026, le journal Le Monde parlait par exemple de Li Yan, citoyen chinois, verbalisé pour avoir fait du vélo sur un trottoir sur quelques dizaines de mètres sans avoir croisé un seul policier. C'est une caméra qui a reconnu son visage et c'est un logiciel qui lui a envoyé son amende à la maison. La Bible attache une grande importance à la justice, on le sait, mais elle nous dit aussi qu'il y a une valeur qui la surpasse. Une valeur qui est même capable d'apporter davantage de justice en ce bas monde que la justice elle-même. Et elle le fait, je crois, de manière complètement contre-intuitive. C'est pour ça qu'on va en parler ce matin. Cette valeur, je l'ai appelée, tadam, la justice du ricin. Bizarre, hein ? Alors évidemment, on va aller en Jonas 4. Je dis évidemment parce que le ricin, c'est le seul endroit où on trouve le ricin dans la Bible, Jonas 4. Donc ça indique déjà où on va se situer, et aussi parce que on est donc sur la dernière prédication de la série qui nous amenait à Jonas. Mais avant, je vais prier. Seigneur, nous l'avons entendu ce matin, ta parole est la vérité. Et ta parole nous dit aussi que la vérité nous rend libres. Alors c'est ce que nous te demandons pour nous-mêmes ce matin. Un peu plus de liberté dans notre vie par la vérité de ta parole. Seigneur, donne-nous de l'entendre avec des oreilles remplies de foi. Et pour ça, nous te demandons l'assistance de ton Esprit Saint. Nous avons besoin qu'il ouvre notre cœur et notre entendement aux Écritures. Nous te le demandons au nom de Jésus. Amen. On va donc aller lire Jonas 4, mais je vais introduire ce passage. D'abord parce que Jonas 4 commence par cette phrase « Cela fut très mal pris par Jonas qui se fâcha ». Et donc, avant de lire le texte dans son ensemble, il faut qu'on revoie rapidement ce qui a été très mal pris par Jonas. Je sais qu'il y a pas mal de visiteurs aujourd'hui, parce que c'est les vacances, qu'il y a des gens qui sont certainement là de passage ou en congé, et qui n'étaient donc pas là pour les épisodes précédents. Donc je vais faire un petit rappel des grandes lignes de l'histoire de Jonas. Dieu envoie son prophète à Ninive pour annoncer la destruction de la ville, et Jonas, lui, s'enfuit à l'opposé, en sens contraire. Alors qu'il traverse la Méditerranée, Dieu envoie une tempête qui met le bateau en péril. Les marins comprennent que le problème vient de Jonas. Ils le jettent à la mer. Jonas est avalé par un énorme poisson au sein duquel il va passer 3 jours et 3 nuits, ce qui est évidemment, je dirais, une prophétie de la mort et de la résurrection du Christ qui est à venir, qui interviendra 7 siècles plus tard, 8 siècles même. Et puis il est recraché sur la terre ferme, et fort de cette expérience, il va se dire que finalement, ce n'est pas une mauvaise idée d'aller à Ninive pour faire le travail que Dieu lui a demandé de faire. Mais il y va quand même la mort dans l'âme, parce qu'il sait ce que Dieu compte faire là-bas. Et ça ne loupe pas, les Ninivites se repentent, ils crient à Dieu, et nous lisons donc au dernier verset du chapitre 3, « Dieu vit qu'ils agissaient ainsi et qu'ils revenaient de leur voie mauvaise ». Alors Dieu renonça au mal qu'il avait parlé de leur faire, il ne le fit pas. Et c'est là qu'intervient notre chapitre 4. Cela fut très mal pris par Jonas, qui se fâcha. Il pria le Seigneur en disant, « S'il te plaît, Seigneur, n'est-ce pas ce que je disais quand j'étais encore dans mon pays ? C'est pourquoi j'ai préféré fuir à Tarsis, car je savais que tu es un Dieu clément et compatissant, patient et grand par la fidélité, qui renonce au mal. Maintenant, Seigneur, prends-moi la vie, je t'en prie, car mieux vaut pour moi mourir que vivre. » Le Seigneur répondit, « Fais-tu bien de te fâcher ?» Jonas sortit de la ville et s'assit à l'est de la ville. Là, il se fit une hutte et s'assit dessous, à l'ombre, afin de voir ce qui arriverait dans la ville. Le Seigneur Dieu fit intervenir un ricin qui s'éleva au-dessus de Jonas pour donner de l'ombre sur sa tête et le délivrer de son mal. Jonas éprouva une grande joie à cause de ce ricin. Mais le lendemain, quand parut l'aurore, Dieu fit intervenir un ver qui s'attaqua au ricin et le ricin se dessécha. Au lever du soleil, Dieu fit intervenir un vent d'est étouffant et le soleil frappa la tête de Jonas. Il tomba en défaillance. Il demanda à mourir en disant « Mieux vaut pour moi mourir que vivre ». Dieu dit à Jonas « Fais-tu bien de te fâcher à cause du ricin ?» Il répondit « Je fais bien de me fâcher au point de demander la mort ». Le Seigneur dit « Toi, tu as pitié du ricin, qui ne t'a coûté aucune peine, que tu n'as pas fait grandir, qui est né en une nuit et qui a disparu en une nuit. Et moi, je n'aurai pas pitié de Ninive, la grande ville, où il y a plus de 120 000 humains qui ne savent pas distinguer leur droite de leur gauche et des bêtes en grand nombre. » Jonas est donc en colère. Et on va commencer par regarder de plus près les raisons de la colère de John Steinbeck, comme chacun le sait. Alors vous voyez la scène. Un prophète va dans une ville et à la suite de sa prédication, toute la ville se repent. Donc évidemment, le gars entre en dépression. Vous imaginez l'horreur, hein, vous voyez, vous, à les places des éléphants, en centre-ville de Chambéry, vous prêchez l'évangile et tout Chambéry se convertit. C'est vraiment le cauchemar du prédicateur. Jonas veut mourir, rien que ça. Et pas une fois, deux fois, au verset 3, puis au verset 8. « Prends-moi la vie, je fais bien de me fâcher au point de demander la mort. » Il y a un petit côté drama queen ici. En fait, il est vraiment très affecté. Il est vraiment très affecté. La traduction du verset 1 ne rend pas bien l'expression utilisée en hébreu, je trouve. Dans la NBS, alors je fais comme si je connaissais l'hébreu magnifiquement, j'ai vu ça dans un commentaire, hein, c'est tout, mais dans la NBS, on lit « Cela fut très mal pris par Jonas. Et je ne sais pas comment vous recevez cette phrase, mais moi j'imagine Jonas drapé dans sa dignité, qui part vexé, voilà, il l'a mal pris, quoi. Mais littéralement, le verset dit « Cela déplut un grand déplaisir à Jonas ». J'aime bien cette expression. « Cela déplut un grand déplaisir ». Vous avez le déplaisir, ça on sait ce que c'est. Eh bien lui, dans le déplaisir, ça lui a déplu. C'est, voilà, c'est très fort. C'est, l'idée d'irritation, elle est présente 4 fois dans le texte et elle traduit un mot apparenté à un mot araméen qui signifie « allumer un feu ». De nos jours, je crois qu'on dirait que Jonas est vénère de chez vénère. Alors pourquoi ? Eh bien là, c'est très clair, parce que Jonas le dit lui-même à Dieu. Il lui dit « Je le savais que tu es un Dieu clément, que tu es un Dieu compatissant, que tu es un Dieu patient. Je le savais que tu étais grand par la fidélité. Je savais que tu renonces au mal. » Et c'est ça qu'il défrise. La clémence et la compassion, la patience et la fidélité de Dieu, c'est super. Oui, 2 fois oui, 1000 fois oui, mais pas pour les Ninivites. Pas pour les Ninivites, pas pour ces Assyriens sanguinaires et cruels qui menacent l'existence d'Israël. Faut quand même pas pousser, quoi. Et ça, c'est une première raison pour laquelle Jonas est en colère. Mais il y en a probablement une deuxième. C'est en tout cas la théorie ou la proposition de la tradition juive, et elle me semble tout à fait pertinente, en tout cas suffisamment pour que je vous la partage. On a vu la dernière fois que dans le même temps où Jonas part prêcher à Ninive, on a les prophètes Amos et Osée qui prêchent en Israël. Et les résultats pour eux en Israël sont franchement médiocres. Osée souligne l'infidélité d'Israël. Amos annonce que le jugement va s'abattre et il n'y a pas de repentance en Israël. Il n'y a pas de repentance. Et donc Jonas, il l'a doublement mauvaise, parce que la repentance des Ninivites met d'autant plus en évidence l'endurcissement d'Israël et précipite le jugement qui va s'abattre sur sa propre nation. C'est-à-dire que non seulement sa prédication va sauver les ennemis de son peuple, mais en plus, elle va précipiter la perte de sa propre nation. Ça, c'est le point de vue de la tradition juive, et si ce point de vue est juste, je crois qu'on comprend mieux que ça ait déplu à Jonas d'un grand déplaisir dans la déplaisitude de l'implaisirage. C'est vraiment la tristitude, quoi. Donc Jonas sort de la ville. Il s'assoit à l'est. Les commentateurs disent que c'est parce qu'à l'est de Ninive, on trouve des montagnes qui permettent de surplomber la ville et donc de bien voir ce qui va pouvoir s'y passer. Et comme il est en plein cagnard, il se fait une hutte pour avoir un peu d'ombre. Et là, il va vivre la plus extraordinaire expérience de chaud et de froid de sa vie. On l'a lu ensemble tout à l'heure. Dieu fait pousser un ricin, Jonas est content, puis Dieu fait mourir ce ricin et Jonas veut mourir. Bon. Dieu lui dit « Est-ce que tu as raison de te fâcher à cause de ce ricin ?» Et Jonas répond, moi je trouve ça extraordinaire, ben « Un peu que j'ai raison. Ah oui, j'ai raison, bien sûr que j'ai raison. » Je trouve ça extraordinaire parce que le moins qu'on puisse dire, et je le dis vraiment sans ironie, c'est que Jonas est à l'aise dans sa relation avec le Seigneur. Et franchement, ça j'aime bien. On trouve là une qualité de relation, malgré toute la rébellion du personnage, une qualité de relation qu'on retrouve dans certains psaumes où on voit le psalmiste dans une liberté de parole tout à fait décoiffante vis-à-vis de Dieu. Je cite toujours volontiers le psaume 44 où le psalmiste n'hésite pas à dire à Dieu « C'est à cause de toi qu'on nous mène à l'abattoir ». On n'a rien fait et toi, tu nous tues. C'est le psalmiste qui dit ça. Et je trouve ça fou. Qui oserait lancer de telles accusations envers Dieu ? Mais on pourrait aussi citer les psaumes d'imprécation où on voit le psalmiste s'adresser à Dieu cette fois-ci pour demander la mort de ses ennemis. Et on sent bien qu'il y a comme un malaise là. Ça ne veut pas dire que Dieu est d'accord avec le contenu de ses prières ou qu'il apprécie l'attitude de rébellion de Jonas. Mais puisque ces prières existent dans la Bible, puisque les psaumes sont un recueil de prières que Dieu agrée, ça veut quand même dire que Dieu accueille et apprécie cette transparence de cœur. Il ne triche pas, Jonas. Il ne triche pas avec Dieu. Il n'essaye pas de donner une bonne réponse de croyant qui irait à l'encontre de sa propre conscience, histoire de faire bonne figure. La situation ne lui convient pas et il le dit à Dieu. Il n'est pas d'accord avec lui et il le dit à Dieu. Et en cela, à nouveau, Jonas, je crois, est un authentique croyant. Maintenant, on va essayer de comprendre d'un peu plus près ce qui se joue avec cette histoire de ricin. Alors d'abord, il faut dire qu'en vrai, l'identification de cette plante avec un ricin, c'est une hypothèse. Le mot utilisé pour désigner cette plante, je l'ai dit tout à l'heure, c'est un mot qui ne se retrouve nulle part ailleurs dans la Bible. Et donc, on n'a pas d'élément intra-biblique qui nous aiderait à définir ce qu'elle était vraiment. Dire que c'est un ricin, c'est un travail de déduction. Alors, pour tout vous dire, la traduction grecque de l'Ancien Testament, donc la Septante, qui date du 3e siècle avant Jésus-Christ, ou 4e, je ne sais plus par là, parle d'une coloquinte. Jérôme, lui, dans sa traduction latine, au 4e siècle après Jésus-Christ, dit que c'est du lierre, parce que les rabbins de son époque lui ont dit « Non, c'est certainement pas une coloquinte. » Donc il s'est dit « Ça peut être quoi ? Allez hop, on va mettre du lierre. » Finalement, on s'est rabattu sur le ricin parce que le ricin, c'est une plante qui pousse très vite, qui produit d'immenses feuilles, donc beaucoup d'ombre, qu'elle est courante au Proche-Orient et qu'elle peut facilement dépasser la taille d'un homme puisqu'elle peut monter jusqu'à 3 à 5 mètres de haut. Donc, c'est une bonne candidate. Mais finalement, c'est un peu comme avec le poisson, le fameux poisson de Jonas. On n'a pas tellement besoin de savoir exactement de quel poisson ou de quelle plante il s'agissait pour comprendre l'idée. Et l'idée ici, c'est que Dieu fait pousser une grande plante au-dessus de Jonas pour lui faire de l'ombre. Alors, petite inclusion écolo au passage, Dieu semble penser qu'une construction humaine pour se protéger du soleil, c'est bien, bravo Jonas pour la hutte, mais qu'un arbre, c'est mieux. Vous faites ce que vous voulez de cette information. En tout cas, Jonas est content. Il est content de sa plante, déjà parce qu'elle lui donne de l'ombre, mais sans doute aussi parce qu'il voit là l'intervention du Seigneur en sa faveur. Parce que même si le ricin pousse vite, comme je l'ai dit tout à l'heure, il pousse quand même pas en une nuit, comme le dit le verset 10. Donc il y a quelque chose ici de l'intervention divine. Quelque chose qui peut faire se dire à Jonas, tiens, Dieu prend soin de moi. Quelque chose qui pourrait peut-être lui laisser entendre que Dieu lui serait devenu favorable. Peut-être même, qu'il va finalement, effectivement, assister à la destruction de Ninive, qui sait. Alors, le lendemain, c'est douche froide, ou plutôt l'inverse, parce que le ricin est mort, dévoré par un ver, et comme si ça ne suffisait pas, le soleil tape encore plus fort. Un vent d'est étouffant arrive sur Jonas. Et tout ça, nous dit le texte, arrive par l'intervention de Dieu. Dieu a donné, Dieu a repris, et Jonas... Il cuit. Il ne dit pas comme Job que le nom de l'Éternel soit béni. Jonas, il pleure. Il pleure quoi ? Il pleure la bénédiction reçue, parce qu'elle lui a été ôtée. Notez qu'il n'a pas moins que ce qu'il avait avant. Il n'a pas moins que ce qu'il avait avant que Dieu fasse pousser ce ricin. L'objet de sa peine, c'est bien la perte de ce ricin. Ce ricin, il s'y était attaché et il déprime de l'avoir perdu. Et c'est le moment que Dieu va choisir pour lui faire donc une leçon de choses. Alors vous ne serez peut-être pas d'accord avec moi, mais voilà comment je comprends les choses ici. Jonas avait une mission auprès des païens. Mais pas seulement Jonas, le peuple juif tout entier avait une mission auprès des païens. Sa vocation, c'était d'être une lumière pour les nations. Dieu a fait de son peuple un peuple à part, avec des lois qui le distinguaient des nations alentours. Mais ce n'était pas fait pour l'isoler, c'était fait pour qu'il brille, pour qu'il illumine de la lumière de Dieu les ténèbres du monde. Jonas et son ricin, c'est l'histoire de ce peuple qui, au lieu d'être devenu une lumière pour les nations, s'est recroquevillé dans ses particularismes. Au lieu de voir en eux une occasion de bénir les nations, il y a vu un motif d'isolement. Il y a nous, le peuple de Dieu, et il y a eux, les goyims. Et nous n'avons rien à faire avec eux. Jonas est accroché à la bénédiction reçue par son peuple comme il est accroché à son ricin. Il pense que Dieu est pour lui, pour son peuple, mais certainement pas pour les Ninivites, ces païens sanguinaires qui ne méritent que de périr. Pourquoi ? Parce que c'est ça qui est juste. Que le méchant s'endurcisse et qu'il périsse, voilà la justice. Le méchant a fait le mal, et bien qu'il paye pour le mal qu'il a fait. Finalement, c'est une vision très auto-centrée. Jonas, quelque part, est très heureux de se connaître lui-même, quoi. Il pleure son ricin, mais il ne pleure pas pour les plus de 120 000 humains qui ne savent pas distinguer leur droite de leur gauche. Il ne pleure pas pour ces gens qui se perdent. Il pleure pour une plante. Il pleure pour l'ombre qui le recouvrait et qui ne le recouvre plus. Il pleure pour le confort qu'il a perdu, mais il ne pleure pas sur ceux qui vont mourir sans avoir même entendu parler de l'Éternel. Et c'est là, bien sûr, qu'on doit être attentif à notre propre cœur, parce qu'on aurait vite fait de regarder Jonas de haut et de critiquer son manque de compassion. Mais Jonas, évidemment, c'est nous. Je ne sais pas si vous avez remarqué, à chaque prédication jusqu'ici, à la fin de chaque chapitre, j'ai noté, parce que ça m'a frappé, que le livre aurait pu s'arrêter et qu'il n'aurait rien manqué, que l'histoire était complète. Eh bien, ce livre n'en finit pas de nous surprendre, parce que là, pour le coup, à la fin du chapitre 4, on se dit, et enfin, c'est quoi la suite? Est-ce que Jonas s'est laissé convaincre? Est-ce qu'il a changé de point de vue? Est-ce qu'il s'est repenti? Comment ça se termine, cette affaire-là? Et le livre, il se termine comme ça, sur cette question ouverte. On n'en saura rien. Peut-être que c'est parce que l'auteur veut que nous réfléchissions, nous. Peut-être parce que l'auteur veut que nous pensions que Jonas, c'est nous. Et que c'est à nous, finalement, de terminer ce récit. Jonas, c'est nous, à chaque fois que nous nous attachons aux ricins, en oubliant les humains qui nous entourent et qui se perdent. Qui pourra dire que ça ne nous arrive jamais? Qui pourra dire que nous ne discutaillons pas parfois sur des détails pendant que l'essentiel nous échappe? Que nous ne pleurons pas parfois sur nos privilèges pendant que les gens se perdent autour de nous? Que nous ne regardons jamais le nombril en gémissant sur des broutilles pendant que d'autres, juste à côté de nous, vivent l'enfer sur terre en prémisse de ce qui les attend pour l'éternité. Dieu nous montre ici, dans ce texte, où est son cœur et où devrait se trouver le nôtre. Toi, tu as pitié du ricin, qui ne t'a coûté aucune peine, que t'as pas fait grandir, qui est né en une nuit, qui a disparu en une nuit. Et moi, j'aurais pas pitié de Ninive, la grande ville, où il y a plus de 120 000 humains qui ne savent pas distinguer leur droite de leur gauche et des bêtes en grand nombre. 120 000 humains, j'ai pas pu m'empêcher de regarder, c'est grosso modo la population de Grand Chambéry. Voilà, c'est notre Ninive à nous, peut-être. 120 000 humains qui ne savent pas distinguer leur droite de leur gauche. Ça veut pas dire qu'ils sont idiots, cette expression, ça veut dire qu'ils sont confus. Ils manquent de discernement. Et quand Dieu voit des gens se perdre parce qu'ils n'ont aucun repère, parce qu'ils sont comme des brebis sans berger, son cœur est ému de compassion. Et je pense qu'il a un peu de mal à nous voir discuter du ricin. Sauf peut-être si c'est parce qu'on a compris la leçon. Jonas veut une justice rétributive. T'as cassé, tu payes. Dieu veut la justice du ricin. Tu as cassé, et en retour, tu reçois ce que tu ne mérites absolument pas. Un salut généreux qui ne t'est pas dû, mais qui t'est donné quand même. La justice, c'est une grande valeur biblique. Dieu est juste, et à la fin des temps, Dieu va exercer son jugement. Mais la justice de Dieu, elle intègre une autre valeur qui la dépasse, qui la déborde, je dirais même qui la déborde généreusement. Vous vous rappelez de la bataille rangée autour de la dernière mousse au chocolat du frigo, de cette soif de justice domestique pour que personne ne soit ni dépouillé ni favorisé. Vous voyez la scène, hein, c'est pas juste, c'est à moi de la prendre. Non, c'est à moi parce que toi, t'en as déjà eu une cette semaine. Eh bien, imaginez que l'un des protagonistes de cette bataille rangée, de cette joute verbale, à un moment donné, dise « Tu sais quoi ? Prends-la ». La mousse au chocolat. Parce qu'en vrai, ça me fait plaisir. Ça me fait plus plaisir de te l'avoir mangée toi que de la manger moi. Ça me fait plaisir de te faire plaisir. Vous imaginez le changement d'ambiance dans la pièce d'un coup? Vous imaginez le cercle vertueux qu'une telle attitude pourrait commencer à engendrer? Je soupçonne que cette histoire de Jonas, bien avant de commencer au centre de Chambéry, commence là, dans nos foyers. On aurait là quelqu'un qui accepte une situation qui lui est défavorable, peut-être même un peu injuste, au nom d'un principe plus grand que la seule justice. Et ce principe, c'est l'amour. L'amour qui s'exprime ici par la générosité. Dieu est juste, c'est l'un de ses attributs. Mais Dieu est amour. Il y a un bon retour là. Et l'amour n'est pas un attribut de Dieu. Dieu n'est pas aimant, Dieu est amour, dans son essence même, ontologiquement. La justice de Dieu ne s'exerce pas sans l'amour sacrificiel du Christ qui s'est donné généreusement pour que quiconque croit en lui ne meure pas, mais ait la vie éternelle. Le jugement viendra, mais en attendant qu'il vienne, Jésus, lui, est venu et il a pris sur lui tous les péchés du monde, ceux des Ninivites, ceux de Jonas, les tiens, les miens, les péchés passés, les péchés à venir, les péchés de ce matin, les péchés de cet après-midi, de telle sorte que si le pécheur se repent, s'il se tourne vers celui qu'il a sauvé par grâce, Jésus-Christ, le juste qui a pris sur lui la condamnation des injustes, Dieu le pardonne. La condamnation n'arrive pas. Et une nouvelle vie commence à la suite de ce Dieu qui nous a rachetés. La justice froide, implacable, c'est peut-être que tu manges cette mousse au chocolat. Mais la justice vécue dans l'amour, la justice du ricin, peut prendre, elle, un autre chemin. Je vais prier.